Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin dans la matinale, nous allons parler de la plaidoirie qui s'est déroulée à Compiègne. On en parle juste après le générique. Ce matin, pour m'accompagner, plein d'invités dans les studios. On a des jeunes, des gens qu'on a déjà reçus également dans les studios, des moins jeunes. On va parler de la plaidoirie. Alors, tout de suite, on fait une drôle de tête. On est en compagnie de profs et d'élèves et de Lucie Samad. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. On s'était déjà vu de nombreuses fois avec la LDH, la Ligue des Droits de l'Homme. Là, un nouveau projet qui existe depuis, je crois, un ou deux ans à Noyon.
Trois ans à Noyon.
On parle de ce projet de plaidoirie.
Oui.
Alors, c'était quoi la jeunesse du projet ?
Alors, donc c'est un concours de plaidoirie avec des lycéens de la seconde à la terminale, de diverses formations qui existent depuis 3 ans à Noyon, au lycée Jean Calvin et Charles de Beauvel, et qu'on a voulu tenter d'ouvrir aussi à Compiègne. Et grâce du coup à Adris qui est présent aujourd'hui, on a eu le contact avec quelques professeurs au lycée Mireille Grenet. Et dès juin dernier, on les a rencontrés pour leur expliquer un peu le projet. Et tout de suite, un certain nombre de professeurs étaient très intéressés par le développer à la rentrée. Et c'est ce qui s'est passé en septembre du coup 2018. On est venu présenter ce projet. Alors en fait, c'est quoi le but du projet ? C'est de sensibiliser les jeunes à ce qu'on appelle les droits de l'homme, à leur état actuel en France ou dans le monde, et puis un petit peu débattre avec eux autour du fait s'il y a encore peut-être besoin de s'indigner, de se révolter sur certaines choses qui sont des droits qui peuvent sembler acquis, mais qui ne le sont pas, même chez nous. Et chaque élève a dû choisir en classe. Donc, on a eu 11 classes qui ont participé à Mireille Grenet, donc un peu plus de 300 élèves, ont dû choisir seul à 2 ou à 3 un thème de plaidoirie, donc un droit de l'homme bafoué à défendre. Et ils ont plaidé après en classe, tous, les uns devant les autres, au courant mars-avril. Chaque classe a élu son lauréat, donc la plaidoirie qu'ils ont estimée la plus pertinente, la plus développée, la plus aboutie. Et c'est le lauréat de chaque classe qui a plaidé lors de la première finale à Compiègne qui avait lieu vendredi 10 mai.
Donc 23 élèves, c'est ça ? 23 élèves ?
Oui.
Pour la finale, ouais.
Oui, on avait 11 groupes.
Ils sont avec nous, il y a une sélection qui est avec nous, également la prof qui s'occupe de ce projet-là. Et puis Adris qui s'occupe de l'AMI, c'est ça ?
Oui, oui, donc je suis vice-président de l'AMI, qui est donc partenaire de ce projet. Et on l'a démarré en fait depuis le mois de juin. 2018, donc j'ai contacté en tant que prof, parce que j'étais prof, là, je suis à la retraite, donc je suis prof à Mireille Grenet, prof de physique, donc j'ai une autre approche avec les élèves, et sur les thématiques aussi de droits de l'homme, qu'on n'a jamais entamé en fait dans les classes.
D'accord. Donc, surtout en physique, j'imagine.
Voilà, donc en tant que prof de physique, en BTS, donc ils sont plutôt dans leur pratique que plutôt dans... Donc c'est un sujet qui me tenait à cœur, parce que ça m'intéresse de voir un petit peu la pensée des élèves et comment ils réagissent par rapport à l'actualité, par rapport aux droits, qu'on commence à voir un peu, qu'il est un peu bafoué un peu, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Et ils ont bien investi, donc c'était formidable, c'était une expérience pour moi nouvelle. Et voilà, et la radio aussi, c'est une expérience qui est nouvelle aussi.
Du coup, il y a la Ligue des Droits de l'Homme, il y a l'AMI, il y a également le CDC qui est présent, partenaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Donc c'est trois associations qui se sont mis. Comment vous êtes regroupés tous les trois ?
Parce que en fait, nous, la Ligue, on est porteuse du projet donc sur Noyon, et c'est vrai qu'on s'est dit que sur Compiègne, si ça prenait, on serait peut-être aussi limité humainement pour gérer si on devrait ouvrir à d'autres lycées. Donc très rapidement, on s'est dit qu'il fallait, avec nous plusieurs partenaires et que ça vraiment que ça crée quelque chose autour de ce projet avec différentes associations locales qui sont déjà aussi actives sur le respect des droits en fait.
Avec nous, on a donc la professeure de quelle matière ? Vous pouvez prendre le micro, le rapprocher vers vous.
Alors donc bonjour, moi je m'appelle Mélanie Bernard et je suis professeure d'histoire de géographie et d'EMC, en fait enseignement moral et civique.
C'est quoi, c'est l'enseignement anciennement l'instruction civique, c'est ça
éducation civique, hein, parce qu'instruction civique c'est bien bien loin, donc voilà en fait.
Hein, c'est ça, quand je disais qu'il y avait des jeunes et des moins jeunes,
de l'éducation civique donc.
Et pourquoi du coup vous avez participé au projet? C'est quoi l'intérêt d'aller avec vos élèves à ce genre de projet? Les profs, c'est pas fait uniquement pour apprendre, donner des cours et puis...
Alors ben non, absolument pas. Donc on a été contacté par Driss Bouabdila, donc qui est un de nos anciens collègues, et par Lucie Samad en fin d'année dernière. Et j'ai envie de dire qu'on a été assez nombreux, hein, parmi les collègues d'histoire-géographie du lycée, et bien accepter évidemment immédiatement le projet, parce que c'est un projet qui est complètement épanouissant, moi je dirais. À plusieurs titres. Alors tout d'abord, évidemment, en fait, premier titre pédagogique. Je suis professeure d'histoire-géographie. J'apprends donc à mes élèves, eh bien, à travailler au lycée l'argumentation. C'est ça une plaidoirie, c'est-à-dire avoir un sujet, je le défends du début à la fin, et je vais convaincre mon auditoire de ce que je dis. Donc pour cela, je vais utiliser en fait des preuves. Je dois travailler l'oral également avec eux. Alors là, ils l'ont travaillé d'une manière importante, en fait, j'ai envie de dire. Donc la première finalité, elle est pédagogique pour nous. La deuxième, eh bien, c'est en EMC, on travaille en fait sur les discriminations, sur les droits de l'homme. Ça nous a permis d'incarner tout simplement, eh bien, le cours d'EMC, de le mener en fait d'une manière différente. Et puis troisième chose, moi j'ai trouvé que ce projet de plaidoirie, je pense que les élèves seront d'accord avec moi, Lucie, Driss aussi, ça a été une formidable aventure humaine, parce qu'elle a été faite de contacts différents entre nous et les élèves, entre les élèves et Lucie, entre les élèves et l'ami en fait que représente Driss, puisqu'ils sont venus de nombreuses fois au lycée. Donc ça a été une belle aventure humaine, et je la trouve formidable, moi, cette aventure, dans la mesure où on a des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui sont parfois éloignés en fait de ces questions des droits de l'homme, et bien qui tout simplement ont pu donner gratuitement, j'ai envie de dire, la parole à ceux qui ne l'ont plus en France. Alors ça, c'est une belle aventure humaine, et j'ai envie de dire que quand on les a vus plaider en classe, quand on les a vus plaider à l'espace Jean Legendre, on s'est dit que vraiment, on faisait le plus beau métier du monde.
En tout cas, vous avez un beau plaidoyer, en tout cas, bravo. Je pense que vous avez travaillé en même temps que les élèves. C'était inné ou vous avez travaillé en même temps? Justement, est-ce que quand il y a un atelier pédagogique comme ça avec des élèves, est-ce que les profs aussi se forment, prennent des techniques? Là, j'ai vu que vous avez pris quelques petites notes avant l'émission.
Exactement, oui. C'est-à-dire que, bah, évidemment, en fait, on les a accompagnés dans l'écriture de leur plaidoirie, mais avant ça, il faut d'abord les apprendre à chercher des informations, à sélectionner les informations sur le thème qui a été le leur. Et puis, il faut leur apprendre à organiser la plaidoirie, même si j'ai envie de dire que dans cette classe, je n'ai pas eu à leur apprendre grand-chose. Mais évidemment que nous, on apprend également des choses à leur contact, hein, tout simplement.
C'est quoi votre classe, du coup? Qui vous pouvez répondre, vous prenez
le
micro.
Du coup, nous, on est la seconde 6 au lycée Mireille Grenet à Compiègne, général.
Et c'est un enseignement général. Alors, normalement, il y avait des filières ensuite. Vous vouliez aller vers... s'il n'y avait pas cette réforme, vous voulez aller vers quoi, le S, L,
S?
Ouais. Alors c'est ça qui est assez drôle, c'est que souvent on aurait plus pensé à la plaidoirie pour des gens qui font littéraire. Et qu'est-ce qui vous a intéressé C'est les profs qui vous ont forcé un petit peu au départ ou...
On a fait un vote pour savoir si on voulait participer ou pas.
On a voulu participer.
Alors, il faudra prendre du coup le micro, si tu veux, tu peux te décaler sur le. Et du coup, ce vote, c'est déjà un début de la démocratie. La démocratie en classe, ça existe vraiment. Du coup, vous avez des représentants. On vous soumet souvent des votes en disant est-ce que vous voulez faire ça ou pas voulez faire ça.
Ouais, assez régulièrement quand même. Hein. Assez régulièrement, ouais. Deux, trois fois par mois, pour des trucs X ou Y, quoi. C'est bien, quoi.
Et alors, comment ça s'est déroulé, cet entraînement, la première fois? Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous engagiez, dans le travail, dans ce genre de choses? Là, c'est...
Pas vraiment, en fait, parce que... C'était en mars qu'on a vraiment commencé à travailler sur la plaidoirie. Et du coup, on ne savait pas vraiment comment on allait faire, etc. Mais c'est au fur et à mesure des recherches, etc., qu'on a avancé, qu'on a créé une plaidoirie. Enfin, que chacun des personnes de la classe.
Au début, on avait fait ça à l'écrit.
C'est quoi, ouais. Du coup, n'hésitez pas à le bouger. Hein, vous pouvez
au début, on avait fait ça à l'écrit, puis après, on s'est entraîné à l'oral, et les profs nous ont beaucoup aidés, surtout Madame Bernard.
Parce que c'est différent, l'écrit et l'oral, c'est vrai que là, c'est...
En fait,
faire un plaidoyer, c'est le faire à l'oral.
On est l'accent, en fait. Enfin, qu'on s'affirme, le ton, ouais, voilà. Il faut poser des questions, il faut... interagir avec le public.
Et c'était combien de temps, du coup, ce plaidoyer vous
c'était entre 6 et 8 minutes.
D'accord, c'est un peu comme un TEDx, vous connaissez le format TEDx, non, c'est un format sur Internet où, en fait, des gens viennent faire des espèces de conférences et ils ont 10 minutes, pas plus, et voilà. C'est, vous regarderez.
Pour convaincre l'auditoire.
Ouais, il y a plein de vidéos assez cool, vous pouvez regarder.
Mais c'est vrai que je voulais rebondir sur le fait qu'on leur demande, nous on revient aussi en classe un peu vers la fin, pour donner des conseils, justement, parce que, surtout quand c'est la première année, c'était pareil à Noyon la première année, ils ne savent pas trop ce qu'est une plaidoirie. Il faut savoir qu'au lycée, il y a très peu d'oraux quand même, il y a beaucoup des exposés, donc en fait, on tombe vite dans le piège de l'exposé écrit, avec tout d'abord, premièrement, deuxièmement, et des fois, on avait ça aussi à l'oral. Et donc, nous, on était utiles pour leur dire, justement, c'est pas comme ça qu'on fait une plaidoirie. Au bout d'un moment, il faut lâcher la feuille, il faut lâcher l'écrit. Donc, c'est vraiment important d'avoir le fond, parce qu'une plaidoirie sans fond, bah, même s'il y a l'émotion, il va manquer quelque chose, surtout pour le jury qui va être expert, qui va être issu du milieu juridique, qui va
demander... C'est des avocats, là, c'est ça qui sont...
Oui, alors on n'a pas que ça, mais on veut vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, il y a quand même des gens issus de ce milieu-là où ils vont demander à ce qu'il y ait des lois ou ce qu'il y ait des articles qui reprennent voilà, ce qui est obligatoire pénalement, de quoi c'est punissable. C'est important aussi, parce qu'il y a un auditoire large devant nous et on peut informer pas mal de gens aussi par ce biais-là. Donc il faut le fond, mais après la forme, ça fait toute la différence. Et on se rend compte et ils se rendent compte que la plaidoirie qui gagne en classe déjà, c'est ça. C'est celui-là qui a le fond. Alors c'est vrai que la thématique, c'est subjectif, mais il y a un intérêt plus ou moins particulier quand il y a une thématique qui est peut-être plus dans l'actualité ou avec une émotion particulière. Mais voilà, ceux qui ont gagné en classe, ça a été toujours ceux qui étaient le plus aboutis sur le fond et la forme. Après, nos trois jeunes, aujourd'hui, ils ont fini deuxième en classe. Mais c'était vraiment très serré. Et il y a quelques classes comme ça où c'était très difficile. Et heureusement que c'était quand même plus les jeunes qui choisissaient, parce que nous, on aurait eu du mal, des fois, de départager certaines plaidoiries. Et vraiment, dans certaines classes comme la leur, il y en avait 3 ou 4 vraiment dans un mouchoir de poche. Et je crois, sans mentir, que c'était 33,6, 33,3. Enfin, vraiment,
même pas de rattrapage.
Et bon, la prof a tenté de demander si on pouvait monter de groupe. Et nous, on aurait eu envie de dire oui, franchement. Mais après, se retrouver avec 20 plaidoiries sur scène, c'est pas possible. Et c'est le jeu du concours, c'est un par classe. Mais vraiment, ils avaient une très bonne plaidoirie. Ils étaient aussi très bons sur le fond et la forme aussi, avec une aisance à l'oral. Et voilà, je pense que cette première année va aussi servir un peu de témoin et que ça sera plus facile pour les autres années de percevoir ce qu'est une plaidoirie et comment l'animer. Et ça va monter crescendo, ils seront de plus en plus à l'aise. Et l'avantage d'avoir des secondes, c'est qu'on espère les récupérer en première et en terminale. Et donc, ils vont faire des plaidoiries pendant leurs 3 ans de cursus, on espère.
Bah juste après un extrait musical, vous nous parlerez un petit peu de vos thèmes de prédilection. Et j'aurais une question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut croire en ce qu'on plaide ou pas, voilà, est-ce qu'on peut plaider des choses qu'on n'est pas forcément d'accord, hein, ce qui peut arriver pour les avocats. On va écouter un extrait de la programmation de Graphite. C'est rentré la semaine dernière, ça s'appelle Angle mort et clignotant. C'est en featuring avec Nivette, ils viennent de Tours et le titre c'est Chenille.
Putain de jungle, c'est des putains de sous, y'a des putains de tigres, y'a des putains de gnous, y'a des putains de toucans, y'a des putains de serpents, des putains de volcans, mais y'a aussi des filles chenilles. Y'a des putains de panthères, y'a des putains de coléoptères, parfois des fourmilières. Mais y'a aussi des gars chenilles. Nage, nage, crocodile, croque, croque, piranha, rampe, rampe, anaconda, cocon, cocon, papillon. Chenilles. We'll be right back.
je veux sortir du zoo. T'oses plus sortir le museau. Je suis un drôle d'oiseau. Je vais me volatiliser. Je suis pas labellisé. J'arrive à l'Elysée sur la pelouse avec une vache pour la faire bouser. Vas-y bouge, vas-y bouche-les. Deux chiots, j'arrive avec deux chiots fichés. Don Quichotte au guichet. Ouf. Dans ma niche postichée, pincez-moi, je suis un crocodile. Sac à main pour des culs de mandrille. Là, ma crache sur ton pull marine. Ta loi est kiki, mais c'est moi le macaque. T'as pas compris?
Chenille! C'est des putains de sous, y'a des putains de migales, y'a des putains de animal, y'a des putains de animal, c'est des putains de sous, y'a des putains de animal, 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 chenille.
Angle mort et clignotant à l'instant sur les ondes de Graphite avec ce morceau. En featuring avec Nivette, c'est le titre Chenille. Juste après, on écoutera un extrait de Idols qui est sorti la semaine dernière. Ça s'appelle Mercedes Marxiste. Et on est toujours en compagnie de plein d'invités ce matin à la matinale. On est un peu nombreux dans les studios et on partage les micros. On parle toujours de la plaidoirie. Alors, la question que je vous avais posée un petit peu avant d'écouter ce morceau-là, c'était déjà c'est quoi votre thème de plaidoirie que vous avez fait ?
On a travaillé sur l'antisémitisme.
Ok, c'est vous qui avez choisi. Tous les trois, vous aviez le même thème. Vous étiez dans le même groupe. Comment ça se déroulait?
Ouais, on était dans le même thème. Enfin, dans le même groupe, oui.
Et pourquoi avoir choisi du coup ce thème-là?
Parce que là, récemment, il y a eu des profanations de tombes et même un mémorial de la Shoah. Et moi, enfin, ça m'a révolté parce qu'il y a quand même plus de 6 millions de personnes qui sont mortes. Et enfin, même que ce soit un événement il y a 75 ans, même aujourd'hui, il y a encore vraiment des agressions physiques ou verbales qui se passent à l'heure d'aujourd'hui. Et enfin, voilà, on est au 21e siècle, quoi.
Ouais. Il y avait des gens de confession juive dans votre groupe ou pas du tout? Est-ce qu'il faut être du coup concerné pour plaider une cause ou pas?
Ah ouais.
Non.
Bah, on peut être concerné parce que Louis là il a un ami juif.
Ouais, moi j'ai un ami qui est de cette confession là et qui disait que plus tard avec toutes ces profanations etc il se voyait pas continuer à vivre en France justement à cause de ça et du coup ça m'a donné envie du coup de travailler sur ce thème là.
Et vous, que vous connaissiez avant ce thème-là ou c'est un thème que juste vous avez vu à la télé, dans les journaux
Ah non, globalement, on connaît quand même, enfin, on sait ce que c'est. Quoi. On connaissait un petit peu, mais on s'en est pas vraiment, enfin, mis à part ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on s'en est vraiment pas occupé après. Enfin, c'est juste un événement marquant, quoi, c'est tout.
Alors, est-ce qu'on peut du coup plaider pour quelque chose dont on n'est pas d'accord?
Bah oui, clairement. Enfin, c'est mieux de. On n'est pas d'accord avec quelque chose et justement, on défend pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi et justement avec l'argumentation, c'est pourquoi et voilà quoi.
Mais est-ce qu'on peut plaider pour quelque chose dont nous on n'est pas d'accord?
Ah non, c'est pas possible.
Ça, c'est possible. Parce que comment font les avocats alors du coup?
Moi, je pense qu'ils sont obligés quand même.
Ils sont obligés, forcément, ils sont payés pour ça, mais ils peuvent. Enfin, c'est pas possible. On est moins bon. Il n'y a pas l'émotion. Enfin, on peut pas quoi.
Vous avez regardé avant des plaidoiries d'avocats? Vous avez regardé on voit en ce moment?
Oui, ouais. Au mémorial de Caen, la finale nationale, je crois, des lycéens à Caen. Et enfin, ça nous a forcément inspiré quoi.
Mais pas d'avocats du style là, on voit Dupond-Moretti avec l'affaire.
Absolument pas.
Comment ça se. Du coup, c'est qui les accompagnateurs tout au long du projet? C'est des gens de l'association?
Oui. Alors, on vient avec l'AMI, le CDC, la LDH, et on a pu venir aussi de temps en temps avec des avocats, quand même, pour donner une aide sur ce qu'on appelle l'éloquence, sur un peu la forme, et de temps en temps aussi des arguments sur le fond, avec une vérification, est-ce que ce qui est dit, c'est juste juridiquement. Et puis c'est vrai que les avocats qui viennent, ils ont l'habitude, donc ils savent aussi s'adapter à ce public jeune et pouvoir un petit peu les aider, les rassurer et avoir un intérêt sur la mise en scène. Après, un avocat, c'est vrai que tous les avocats plaident de manière différente. On va dire, il y en a qui vont être fans d'une mise en scène limite théâtrale. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont vraiment vu ça comme ça. Et en même temps, ce n'est pas forcément ce qui gagne. Parce que de manière très sobre, on peut plaider. Et en fait, c'est un peu injuste. Mais il y a des gens qui sont aidés aussi par déjà la voix ça compte. Il y a des gens qui ont des tout petites voix, il y a des gens qui ont des voix qui portent. Et nous, on a eu quand même pas mal de plaidoiries qu'on gagnait sans aucune mise en scène, sans aucun visuel, sans aucune musique, juste eux, leur micro, et des fois même des personnes toutes seules, sans bouger pendant 6 minutes. Mais voilà, le texte était connu parfaitement et vécu, et avec un ton qui fait que dans la salle, il n'y avait pas un bruit. Et voilà, sur des sujets aussi bien comme le viol l'année dernière, cette année sur ce qu'ont gagné du coup les personnes âgées, le troisième âge,
sur les EHPAD,
les oubliés du troisième âge. Il n'y avait pas de mise en scène à part leur voix et un peu de temps en temps un côté théâtral pour un des trois qui a fait que c'était pertinent. Et je pense que vraiment la thématique aussi, on n'avait eu aucune thématique sur les personnes âgées jusqu'à là. Et ça, c'était intéressant d'être en plus défendu par des jeunes.
Et vous connaissez le livre La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier, non? Vous n'avez pas...
Non,
je vous le conseille, il y a plein de techniques justement sur l'élocution, sur ce genre de choses. On a Benjamin Belladi qui est arrivé avec nous. Tu peux prendre un siège. Du coup, là, vous avez tout à l'heure, vous disiez, vous allez continuer alors pour les saisons prochaines, là, pour les rentrées prochaines.
Moi, j'aimerais beaucoup refaire ce concours, parce que perdre à 0-1 point.
c'est juste le but j'aimerais de gagner, en fait.
J'aurais bien aimé aller au théâtre, quoi. Le faire devant plus de
c'est
personnes.
C'est une bonne expérience supplémentaire, c'est vrai.
Là, vous vous prédestinez à quel métier? Est-ce que vous savez déjà ça, ce que vous voulez faire plus tard, ou est-ce que ça a changé votre orientation de...
Non, pas du tout.
Hein.
Moi, du coup, je pars plus sur des études de droit.
Ok.
Avocat, donc je ferais bien ce que ça donne.
Ok. En faisant S, enfin, du coup, ça sera pas S, mais...
En fait, j'ai regardé, on peut faire n'importe quelle série générale pour faire avocat.
Et c'est quoi les autres métiers où il y a de l'éloquence de la... C'est quoi les... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme métier politicien?
Oui, c'est vrai qu'on a eu on a eu des jeunes qui ont voulu qui partaient sur des cursus Sciences Po, pas mal, surtout dans ceux qui ont gagné. C'est vrai qu'on sentait une dynamique un petit peu comme ça, politique. Après, on a eu des jeunes qui nous ont dit journaliste, grand reporter... Enfin, des choses où on est quand même, on peut être filmé, où on est en contact avec les médias. Après, il y a aussi quand même un côté théâtral. Donc, c'est vrai que ceux qui ont déjà fait, qui ont déjà pris des cours de théâtre, ils peuvent être aidés là-dessus. Par contre, ce qui était assez surprenant et les avantages du projet, c'est, pour nous, c'est une victoire quand on a des professeurs ou qu'on le voit, des jeunes qui seraient un peu aussi en échec scolaire ou en tout cas un petit peu démotivés par l'école parce que ça apporte pas toujours les solutions et ça correspond pas à tous les profils. Ça a pu permettre de valoriser, parce que c'est un travail assez original quand même, on leur demande autre chose. Et aussi pour des fois des élèves qui peuvent être hyper sérieux, bon élève, mais un peu timide, certains se sont révélés, parce que du coup il faut passer outre la timidité pour réussir à plaider avec conviction. Et c'était intéressant de voir que dans certaines classes, surtout dans cette classe qui a vraiment joué le jeu, qui a été très... qui a pu critiquer toutes les plaidoiries, mais de manière toujours très constructive, très fair-play. Voilà, ils ont perdu, mais ils ont été hyper contents pour les premiers. Ils se sont vachement soutenus. La classe a été derrière le groupe lauréat le jour de la finale. Et ça, c'est que du positif. Et nous, ça nous fait du bien en tant que partenaire extérieur de vivre ça aussi en classe. C'est vrai que les moments en classe étaient des moments privilégiés et on a pu... pu valoriser toutes les plaidoiries et les jeunes qui, des fois, n'ont pas réussi à s'impliquer jusqu'au bout. Mais on a quand même vu une volonté. Et je pense que s'il y a l'année prochaine, ça leur permettra de se dire que ouais, j'aurais dû plus m'impliquer. Et cette année, je le fais vraiment à fond parce qu'en effet, je comprends le sens du projet. Au début, ce n'est pas forcément clair. On ne comprend pas tous les aboutissants. Et après, quand ils vivent aussi la finale, même si certains ont perdu... Ils se rendent compte qu'il y a un stress énorme pour monter parce qu'ils plaident devant presque 500 personnes. Ils étaient tous stressés, les lauréats. Mais une fois sur scène, ça ne s'est pas vu. Et en sortant de scène, ils étaient hyper fiers d'avoir réussi à plaider et
le principal,
d'avoir
c'est...
pu défendre quelque chose. Mmh.
C'est d'avoir, de combattre son stress, quoi. C'est que ça devienne du stress positif. C'est quoi le premier conseil que vous pourriez donner à des lycéens qui veulent se lancer là-dedans? Est-ce que, ou qui veulent faire de la plaidoirie en cours, par exemple? Est-ce que si vous avez chacun un conseil?
Moi, je pense que le principal conseil, ce serait de se donner à fond. Enfin, essayer, comme l'a dit Lucie, essayer de faire le maximum pour s'impliquer dedans. Et enfin, il faut être convaincu, du coup, faire des recherches, etc., pour être vraiment dedans.
Surtout, faut vraiment pas avoir peur, et même si on est timide, on laisse tout ça de côté, on y va, quoi. Au pire, c'est pas grave, mais on se donne à fond et c'est le principal, quoi.
Moi, je leur dirais qu'il faut avoir confiance en soi pour bien parler à l'oral et avoir un bon ton.
Vous avez fait des exercices avec des stylos dans la bouche, des exercices de diction, des choses
absolument pas.
Non, c'est quoi? Ça s'est passé comment, du coup, les exercices? C'est quoi l'exercice le plus compliqué que vous avez pu faire? À part de parler devant un public.
En fait, on s'entraînait on avait des salles à côté, on s'entraînait à trois, on se filmait et après on regardait ce qu'il y avait amélioré pour la suite.
Ouais, donc se filmer, c'est un peu comme au foot, hein. Il faut regarder un petit peu, voir la position des mains, la position du corps, elle est importante quand on fait un plaidoyer.
Oui, surtout quand on est stressé, on a forcément des petits tics ou des trucs comme ça. Mais...
on piétine. Ouais, faut savoir prendre l'espace sur la scène aussi.
Ouais. Voilà.
Comment ça s'est déroulé, l'histoire de l'espace sur la scène, justement, ce que vous avez répété dans vos classes? Comment vous avez pu... C'est quoi, c'est 13 mètres de... C'est combien l'ouverture de la scène?
On avait la salle Ravel, donc c'est la plus grande. Donc en fait, les groupes lauréats ont pu venir dès le matin.
D'accord.
Et on a passé la matinée à s'entraîner sur la scène, justement, pour qu'ils puissent se mettre dans des conditions. Après, ils savaient quand même qu'il y avait une grande scène. Donc le but, c'était qu'ils puissent aussi imaginer... tout l'espace qu'il y avait. On a pu avoir, parce que la technique de l'espace Jean Legendre était super, des jeux de jeux de lumière, des petites choses comme ça qui ont agrémenté les plaidoiries et voilà, ça marche toujours, quoi, hein, c'est sûr. C'est,
un peu d'artifice, quoi.
Bah oui, mais ça rend la plaidoirie aussi vivante et ça apporte quelque chose. Ce qui était aussi appréciable et que le jury aime bien, parce qu'ils ne s'y attendent pas, surtout quand c'est la première année, c'est quand la classe, par exemple, entière se lève et dit une phrase ou dit un mot qui sont les mots percutants de la plaidoirie, soit au début ou à la fin. Là, voilà, on sent qu'il y a une vraie unité dans la classe et ça, ça fait plaisir à tout le monde, en fait.
Là, il y a la finale le 25 mai,
oui,
qui se déroule
à Bapaume.
À Bapaume, du coup, dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin, dans le Pas-de-Calais. Et c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui gagne à la fin?
Bon, l'enjeu, c'est pas les cadeaux,
c'est
pas les cadeaux qu'il y a, mais c'est que là, on crée aussi vraiment une dynamique, et on veut créer une dynamique dans tous les Hauts-de-France, parce que c'est aussi la première finale régionale. Ce qu'on veut, et c'est vrai que ça répond à une demande de certains professeurs, de personnes issues du milieu juridique, qui nous disent que ce projet est super, et qu'il faudrait qu'il puisse être installé dans tous les lycées. Donc voilà, en montant aussi à l'échelon régional, c'est la première année, donc là on a 5-6 lycées qui participent, mais ça a vocation, hein, quand on y sera à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième année, peut-être qu'on aura une vingtaine de lycées, il faudra qu'on fasse déjà des finales à Compiègne parce qu'on aura plusieurs lycées, puis après déjà dans l'Oise avant de faire Hauts-de-France, c'est de créer vraiment un vrai projet autour de plaidoirie sur les droits de l'homme et leur défense. Et je pense que ça apporte beaucoup aux élèves, aux profs, et puis aussi à nous, les bénévoles, parce que c'est un projet où il n'y a que du positif à retirer.
Là, à Bapaume, c'est qui les partenaires, du coup? Parce que alors, sur Compiègne, c'était l'AMI, le CDC, et puis la LDH.
Alors là, c'est vraiment géré par la LDH, mais donc la LDH Hauts-de-France.
Nationale à Hauts-de-France, ok.
Ouais, Hauts-de-France. Donc avec des membres du jury, toujours, quand même beaucoup là, issus du milieu juridique, avec des jeunes qui ont déjà fait des concours de plaidoirie de portée nationale voire internationale, et là on monte les 4 lauréats de Compiègne, les 3 de Noyon, et après d'autres de Friville, de Roubaix, etc. Donc ceux qui ont été récompensés sur scène le 10 mai et le 2 mai à Noyon.
C'est quoi l'intérêt pour la LDH de porter ce genre de projet? C'est pour montrer les droits fondamentaux, les mettre sur le devant avec quelque chose un peu plus sexy que des happenings ou ce genre de choses pour des jeunes?
Oui, c'est vraiment ça, mais surtout que notre mission première, c'est de faire du plaidoyer. Et c'est vrai qu'on trouve que c'est pertinent de le faire avec les jeunes. Et là, on cumule tout, en fait. Et limite, ils font notre boulot parce que c'est eux qui font le plaidoyer autour des droits de l'homme. Donc là, c'est un pari gagné à 100%. C'est vrai que quand on voit les maires aussi bien de Compiègne et de Noyon, l'ordre des bâtonniers, des avocats qui nous disent que c'est super et qui valorisent les jeunes en disant votre plaidoirie, elle est digne d'un avocat, on se dit qu'en effet, ce projet, je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Les élèves, mais aussi, je pense que les profs, on est tous d'accord pour continuer l'année prochaine, une deuxième année. Donc, je pense que le plus dur, c'est de réussir à l'instaurer dans un lycée parce qu'il faut avoir le contact avec les professeurs,
bien sûr, toujours présenter plus compliqué. Le
projet. Mais une fois que ce projet est lancé dans un lycée, il devient tout de suite pérenne.
Il y aura quand une plaidoirie entre profs?
Ah, ça va être plus compliqué quand on voit la timidité des professeurs, mais...
voilà, moi je sais pas si ça, si c'est un intérêt en fait.
Bah, c'est bien, c'est de montrer, montrer aux élèves
ça,
que
voilà,
c'est de montrer
élèves...
aux élèves que c'est, vous êtes au même niveau de stress que les élèves. Ça
ah oui, oh, bah, ça, peut-être plus, même, oui, peut-être plus. Enfin, ça je pense qu'ils le comprennent. Enfin, surtout qu'il fallait pas qu'on modélise. Fallait vraiment leur laisser la parole à eux. Donc voilà quoi. Après ça, c'est le rôle du prof d'être là toujours en soutien, mais vraiment pas en encadrant quoi. Vraiment, c'était leur plaidoirie et il fallait absolument qu'elle le reste. C'était pas notre plaidoyer à nous, c'était pas notre texte à nous. Hein. Ça, c'était un peu tout le voilà quoi, tout l'enjeu, ce à quoi il fallait faire attention. Mais on a bien fait de leur faire confiance parce que c'était vraiment super. Le résultat était vraiment super.
Ça a été enregistré, c'est
oui.
Ouais,
oui, on avait Ludovic Beck qui a pour Compiègne qui a filmé le projet. Donc vu que c'est la première année, il est venu en classe dès septembre. Et il a filmé aussi les différentes étapes pour qu'on puisse vraiment faire un film résumé. Et il était présent aussi le vendredi 10 mai, toute l'après-midi. On pensait que ça pouvait intéresser certains parents qui ne pouvaient pas être disponibles parce que c'était en plein après-midi, de voir aussi la plaidoirie de leurs enfants. Et puis nous, on a fait toujours ça noyon. Et c'est vrai que ça sert de modèle. Comme ça, les jeunes, ils peuvent regarder les plaidoiries des années d'avant et voir ce qui est une bonne plaidoirie. Qu'est-ce qui a gagné? Comment ça a été plaidé? Le ton, la forme, la gestuelle Donc, ouais, c'est pertinent de filmer. Puis ça nous fait aussi des beaux souvenirs et on regarde ça après coup. Avec
et puis des archives, peut-être quand vous aurez la star du barreau dans 10 voilà. ou 20 ans.
Je le connaissais.
C'est nous qui l'avons formé.
C'est ça.
On a utilisé, nous, hein, du coup, en classe, ce qui avait été filmé les années précédentes à Noyon.
D'accord.
C'est okay. par cela qu'on a débuté en début d'année, ouais. vous vous souvenez mm-hmm. Par regarder ça, en fait, hein, pour se dire, mais c'est quoi un concours de plaidoirie et comment est-ce qu'on fait?
Vous avez regardé le film, je sais pas comment il s'appelle, avec
Haute voix ou à voix haute. Il y a le brio, il y a à voix haute, le projet Eloquentia, ouais, tout ce genre de films.
C'est un peu à la mode en ce moment.
Ouais, c'est vrai. Sauf que nous, comme on disait tout à l'heure en off, on y ajoute à l'éloquence vraiment un volet citoyen. Exactement. Où les jeunes doivent plaider autour de droits de l'homme. Et ça nous semblait fondamental parce qu'ils font des recherches pour leur sujet, mais en même temps, ils écoutent aussi les autres plaidoiries de leurs camarades. Et en classe, il y a plein de choses qui abordaient l'homophobie, le droit des étrangers, le handicap, le sexisme, le harcèlement de rue. Et tout ça s'est accumulé. Et en fait, c'est ce qu'on se disait en tant qu'associatif aussi. Nous, on essaye de faire ça. Mais des fois, c'est difficile. Notre message, il peut être vu comme élitiste, comme des fois trop compliqué. Et là, bah, en passant par ce biais de jeunes, et bah, ça passe beaucoup plus facilement.
Ouais, vu que c'est eux qui en parlent, bien sûr.
Et voilà, le plaidoyer, il est fait. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, mission accomplie pour nous parce que voilà, c'est utile. Et bon, quand ils nous disent qu'ils ont envie de continuer, bah, on se dit que c'est super et qu'ils se sont pris au jeu.
Le pari est gagné.
Oui.
On va écouter un extrait musical. On va écouter Idols avec ce titre Mercedes Marxiste et on se retrouve juste après. Et à la fin de l'émission, vous découvrirez un nouveau morceau qu'on a rentré également en prog. C'est du metal mongol. Ça s'appelle The You. Check, 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 tick, 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 what she said. À l'instant, sur les ondes de Graphite, c'était un nouvel morceau de Idols avec Mercedes Mark VI. C'est rentré en prog et c'est tout nouveau. C'est sorti la semaine dernière, vendredi dernier. On est toujours en compagnie de plein de monde dans les studios. On ne va pas tous vous les énumérer, mais on parle de la plaidoirie qui s'est déroulée à Compiègne. La finale, ça sera le 25 mai et ça sera à Bapaume dans le Pas-de-Calais. On va faire un petit bout de votre plaidoirie. C'est, du coup, vous pouvez un peu nous recontextualiser. C'est quoi le thème de la plaidoirie? Donc là, c'est sur l'antisémitisme.
Oui, c'est ça.
Ça ouais. Et comment ça va se dérouler?
Louis va commencer. Ouais. Enfin, on va tous faire une partie. Que la fin de notre plaidoirie et voilà quoi.
Ok, c'est à vous.
Allez. Les actes antisémites sont nombreux de nos jours. Et les témoignages choquants sont malheureusement récurrents. En 2009, on connaissait un pic d'actions antisémites, avec plus de 660 actes. On croyait à une diminution de ce fléau, puisqu'en 2017, on dénombrait 335 actes antisémites en France. Parmi ce nombre toujours trop élevé, un homicide, 29 violences, 64 dégradations et 94 propos, gestes et injures. Mais c'est aussi la distribution de tracts, de courriers qui profanent la confession juive. Malheureusement, en 2018, une hausse de 74% a été déclarée. Il y a aussi la question des réseaux sociaux. Tous les jours, des juifs se font insulter ou sont victimes de moqueries sur des réseaux comme Facebook ou Twitter. Là-dessus, l'État émet une volonté de changement, une volonté d'une meilleure surveillance pour éviter que ça se produise. Sauf que ça ne semble pas marcher.
Dans l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans aucune distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de tout autre. Donc, l'antisémitisme ne devrait pas exister. La sanction du délit sur l'antisémitisme est de 2 ans de prison ferme et de 45 000 euros d'amende. »
Oui, mesdames, messieurs, le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme sont 3 notions encore très présentes aujourd'hui, et ce malgré de nombreuses avancées sociopolitiques. Par exemple, très récemment, de nombreuses tombes juives ont été profanées et même un mémorial de la Shoah. Dois-je rappeler à ces agresseurs qu'est-ce que la Shoah ? Oui, j'ai dit agresseur pour une profanation de tombes, car ils ne profanent pas non seulement les tombes, mais ils tuent et massacrent l'histoire et détruisent le travail de nos aînés qui se sont battus de fer et de sang pour que règne un air de paix. Et surtout, ils ont sauvegardé notre devise « Liberté, égalité, fraternité ».
Bravo. Sur l'écriture, ça c'est comment vous êtes passé, comment vous avez écrit ça? Comment ça s'est construit?
D'abord, on a cherché beaucoup d'informations sur Internet.
Ouais, les chiffres, les lois,
qu'est-ce que l'antisémitisme vraiment exactement? Après, on a pris des chiffres.
Des lois par rapport aux déclarations, tout ça.
Citer la Déclaration des droits de l'homme.
Et tout ce qu'il y avait déjà autour de vous, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, etc., vous vous sentiez informé ou vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas?
On a découvert
plein de choses.
Ouais. Et du coup, ce serait intéressant de mettre ça au programme du lycée ou peut-être avant.
C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas.
On n'en parle pas beaucoup et du coup, c'est vrai, ce serait intéressant.
Ça l'est en EMC, hein, puisqu'en EMC en seconde, on travaille sur le refus des discriminations. Donc là, on était vraiment pleinement dans le programme en tout cas.
Donc vous avez loupé ce cours ou quoi? Vous n'y avez pas été?
On l'a fait, mais ils l'ont fait eux sous la forme de plaidoirie.
Ah d'accord, vous avez utilisé le projet pour l'incorporer, d'accord. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils voient d'autre en EMC? Quels sont les sujets qui sont vus? Alors, il n'y a pas de notes là. Hein.
Alors en EMC, donc on a une thématique essentielle à travailler au cours de l'année de seconde, donc ça changera en fait l'année prochaine. Ça s'appelle l'état de droit. Le citoyen et l'état de droit, donc dans lequel justement eh bien, on va aborder toutes ces thématiques de élaboration de la loi, respect de la loi et du coup refus des discriminations. Donc c'est quand même très très large et c'est pas un cours classique, hein, même si le cours d'histoire-géographie est plus maintenant un cours classique. D'accord, on a quand même changé sur les choses, mais alors le cours de MC, il l'est certainement pas. Et il est là justement pour laisser en fait la parole aux jeunes, c'est pourquoi les débats avaient été instaurés, etc. Et sur la forme, on en est très très libre. Alors là, quand on nous a présenté ce projet de plaidoirie, évidemment qu'il pouvait s'incarner pleinement dans ce programme et sur ce créneau de MC.
Vous êtes professeur depuis combien de temps?
Oh là, ça ne se demande pas, ça.
ça fait longtemps, ça fait...
À la radio. Fermez les oreilles des élèves, hein, d'accord. Qui m'écoute, écoutez, moi j'ai commencé en 2003.
D'accord, et ça a évolué du coup, la mentalité des élèves ou pas du tout entre 2003 et aujourd'hui, 2019?
Ben, j'ai envie de dire oui et non. C'est vrai que parfois, on entend beaucoup les gens se plaindre, les élèves de nos jours, ils passent leur temps sur leur console vidéo, ils ne savent pas grand-chose. Oui, on se rend bien compte quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées au niveau de l'actualité, par exemple, etc. Mais finalement, en fait, quand moi, je les vois se passionner comme ça pour un projet, je me dis, mais non, rien n'a changé. Absolument pas, quoi. Et finalement, c'est peut-être à nous aller d'amener les choses un peu différemment, parce que vraiment, leurs plaidoiries, elles étaient, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je pourrais te laisser la parole après, Driss, elles étaient vraiment, mais de qualité. Véritablement, donc, non.
Et l'arrivée d'Internet, est-ce que ça a changé le rapport entre les élèves entre... Ouais, c'est ça ?
Alors là, oui, tout à fait, en fait. C'est-à-dire que là, il faut les accompagner dans l'utilisation de l'outil Internet. C'est leur première source d'information. C'est le premier moyen d'information. Et en même temps, les sondages nous montrent que c'est également, en fait, eh bien, le média dont ils se méfient le plus. Alors là, on est quand même sur un paradoxe, en fait. Et maintenant, de toute façon, c'est entré dans les programmes en EMC. Il faut travailler, en fait, avec les élèves, hein, sur le traitement de l'information. Et on leur apprend même, on doit leur apprendre même à critiquer, en tout cas à savoir déjouer les complots. Les fake news, les théories du complot, ça fait partie de leur quotidien. Ça, il faut le savoir. Mais pas simplement du quotidien des jeunes, je pense du quotidien en fait, d'un grand nombre de personnes. Mais en tout cas, pour eux, oui. Donc là, on est sur un enjeu de société.
On bosse souvent sur l'éducation aux médias d'information et souvent, on voudrait travailler également avec les parents. Exactement. Parce que même ma mère, des fois, je vois poster des trucs sur Facebook où je m'arrache les cheveux. Je lui dis, mais t'as lu, tu vois d'où ça vient. Donc il faudrait faire un travail un peu plus profond. Vous pensez qu'il va y avoir dans les années à venir un cours spécialisé sur ce traitement de l'information, parce que chaque fois qu'on sonde les élèves, ils lisent pas les journaux, mais par contre ils écoutent la radio, ils regardent les informations sur Internet. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait vraiment un cours dédié à ça?
Alors, ça y est, j'ai envie de dire que ça fait quasiment partie, là, au niveau de la réforme, dans l'enseignement de spécialité, puisqu'ils pourront choisir un enseignement de spécialité super, qu'ils ne choisissent pas, mais c'est pas grave, qui s'appelle Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques.
D'accord.
Et il y a toute une thématique, en fait, justement, sur les médias. Et à la fin, on termine en s'intéressant aux lanceurs d'alerte et sur ces théories du complot, hein, c'est-à-dire pouvoir en déjouer. Ça en faisait déjà partie en EMC, dans le programme de première. Il y a, en fait, hein, d'accord, l'information, le traitement des médias, etc. Et il y a aussi un enseignement une nouvelle option en classe de seconde qui est liée en fait à l'utilisation du numérique. Donc qui va être assuré en fait en grande partie par des profs de sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur savoir créer un logiciel, mais aussi savoir les utiliser. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sépare plus en fait l'aspect technique de l'aspect éthique, moral. Je trouve, et ça va être intéressant. Donc oui, ça fait partie de nos thématiques, en tout cas.
Là, pour les partenaires, on rappelle, il y a l'AMI, il y a la LDH et puis le CDC. Il y a Benjamin qui nous a rejoint en cours d'émission. C'est quoi l'intérêt pour le CDC? Donc vous êtes vice-président du CDC. C'est quoi l'intérêt de rentrer dans ce projet-là pour cette association compiénoise?
Alors l'intérêt, il est commun, il est partagé. Nous, le premier intérêt, c'est de pouvoir transmettre des messages. Tout à l'heure, on disait, voilà, quel autre métier on pourrait faire en faisant de la plaidoirie. Ben, ce n'est pas forcément des métiers, c'est peut-être éveiller ou réveiller des consciences citoyennes et former les militants de demain. Nous, on a un message, mais qui peut paraître quelquefois partisan, trop partisan, dans certaines oreilles. Et c'est vrai que le fait que ça vienne de lycéens, ben, le message passe. Et Lucie l'a très bien dit tout à l'heure, ben, aujourd'hui, enfin, c'est vous qui avez été, je dirais, notre meilleure vitrine ce jour-là.
Pourquoi aujourd'hui, c'est quoi le problème qu'il y a avec ces messages-là? Et aujourd'hui, vous avez un t-shirt Justice pour Adama. C'est des choses qui ne passent pas dans les médias classiques ou dans la population compiénoise. C'est quoi le problème?
Alors, effectivement, il y a, comme je le disais, il y a des gens qui arrivent à entendre, qui arrivent à comprendre nos combats. Il y en a d'autres un peu moins. Maintenant, on essaye toujours de faire preuve de pédagogie, d'expliquer pourquoi on s'engage sur telle ou telle thématique, même si ce ne sont pas forcément, là, en l'occurrence, Justice pour Adama, donc ça concerne des faits de violence policière. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une plaidoirie de violence policière. Bon, là, en l'occurrence, c'était aux États-Unis. Et pour en avoir discuté avec la petite Lily, elle se dirigeait pas forcément vers des études de droit. Et comme toi, ben, justement, elle compte bien passer par cette case-là. Et quand on en a discuté juste après la plaidoirie avec Aïssata Ndiaye, donc pas n'importe qui quand même, hein, donc jeune fille issue des quartiers de la ville de Compiègne et qui est aujourd'hui avocate au barreau de New York, je lui ai demandé quel conseil pourrais-tu donner à Lily. Elle m'a dit, écoute, j'ai aucun conseil à lui donner. Enfin, aucun conseil à lui donner alors qu'elle est juste lycéenne. Et vraiment, on a été bluffé parce que Voilà, parce que justement, j'allais dire, des élèves de seconde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore une marge de progression assez significative avec la première, avec la terminale. Et c'est des gens qui vont arriver peut-être en fac de droit avec déjà une bonne base, quelque chose de solide. Et voilà, pour nous, c'est vraiment un pari gagné. C'est un pari gagnant-gagnant. Et le fait d'arriver à transmettre un petit peu ces messages-là et puis de véhiculer voilà, des messages positifs et de vous dire que bah, demain, on va transmettre le flambeau. C'est vous qui allez être les militants. C'est vous qui allez défendre certains droits humains que l'on trouve bafoués. Après, je dirais, quel que soit le droit humain, il y a des sujets voilà, qui sont assez clivants, mais peu importe. L'important, c'est de pouvoir vous engager. Et puis, on disait tout à l'heure, on parlait de voilà, les jeunes d'aujourd'hui par rapport aux jeunes d'il y a 20 ans. Alors moi, je ne crois pas que les jeunes d'aujourd'hui soient moins engagés. Je ne crois pas que les jeunes d'aujourd'hui soient moins capables. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes bah, voilà, ont tout à construire à nos côtés. Et de toute façon, il faudra bien qu'on transmette le flambeau.
Ça, c'est générationnel. Il y a toujours ah, les jeunes aujourd'hui.
C'était mieux avant.
Mais il y avait déjà ça il y a 20 ans, en fait.
C'est hein. Ça, il y a même déjà ça. Il y a...
Bah oui.
Il y a des années et des années.
Je voulais juste compléter du coup ce qu'a dit Benjamin sur le groupe de Lily Plamedi et Jasmine qui ont fini troisième, les filles, sur le racisme aux États-Unis hier, aujourd'hui et demain. C'était pas les seules, hein, mais c'est vrai qu'il y avait, par exemple, enfin, je voulais parler du concret, vraiment, de dire ce que ce projet a apporté. Le matin, elles étaient en stress total quand elles ont dû répéter en voyant la scène et la salle qui était pourtant vide. Et en fait, où là, on a été impressionnés, c'est de elles-mêmes, après avoir voilà, un peu paniqué, et elles se sont repris. Et elle a dit à un moment, non, mais c'est trop important, j'ai un message à faire passer. Ma timidité, ma peur, ça passera après. Et c'est ce qu'on leur disait depuis le début. Dites-vous que le message passe avant. Et en fait, elle l'a d'elle-même compris. Ouais. Et elle s'est dit, non, non, c'est trop important ce que j'ai à faire. C'est un racisme qu'on a pu vivre nous aussi. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir le dire. Et justement, devant une salle pleine aussi, c'est intéressant parce qu'il y a quand même 500 personnes, des journalistes, des gens qui sont là pour relayer. Et bah, la timidité du matin et le stress qui leur avait fait perdre leurs moyens, c'est effacé. Et sur scène, les trois, elles ont été impressionnantes. Et ce qui est ressorti des membres du jury, c'est qu'elles ont plaidé avec une aisance, sans papier. Et on sentait que c'était quelque chose qu'elles avaient vraiment vécu. Et du coup, c'était nickel, quoi. Et elles, en sortant, elles étaient hyper fières d'elles, quoi, en disant, bah, on a passé outre la timidité et la peur qu'on avait de ne pas assurer. Elles se sont encore voulues parce qu'elles ont zappé un truc à la fin. Et je leur ai dit, vous verrez, ça ne va pas vous empêcher. Ça n'allait pas vous empêcher, elles ont fini troisième, quoi.
Ça, c'est toujours le même problème, c'est, ah, j'ai loupé un truc, mais le
public... Bah oui, le public, on veut la perfection, mais
ça n'existe
pas. Le public
ne s'en rend pas compte.
Voilà.
Et pourquoi avoir choisi Mireille Grenier, pas laisser genre Pierre Dailly ou De Gaulle,
bah, les meilleurs.
Vous faites très bien le pont avec le prochain intervenant, parce voilà. Que c'était... on en avait parlé avec un petit peu l'ami LCDC, et du coup, Driss avait le contact avec le lycée Mireille Grenier, mais c'était intéressant. Et
c'est Monsieur Mineur, votre CPE, c'est ça
Non, l'adjoint, c'est Monsieur Revel.
Monsieur Revel, okay.
Qui d'ailleurs a fait un très beau discours le jour qui a pu se libérer, qui a pu venir, qui a fait un très beau discours. Et il était content qu'on puisse mettre en valeur Mireille Grenier de manière positive et avec un projet qui a touché beaucoup de jeunes.
Alors, Driss,
Oui, en fait, l'AMI, l'Association de la médiation interculturelle, on est présente sur Compiègne depuis 25 ans et on travaille en particulier avec les jeunes et qui sont en difficulté, soit en difficulté scolaire hein, en particulier. Donc, on est plus dans la spécialité de le social. Donc, on a deux locaux, on reçoit les jeunes pour faire les CV et tout ça. Mais je veux quand même rebondir sur le projet parce que c'est un projet qui nous intéresse beaucoup parce que ça fait parler des jeunes. Et c'est pour la croisière, moi, en tant que prof, je n'ai jamais fait parler les élèves, sauf de leur poser des questions. Hein, et ils sont censés de répondre. Ce qui fait que ça les coince. Ce n'est pas un devoir à faire. Et donc, ils sont un peu... Et là, c'est pour la première fois que je vois les jeunes sur une autre image. Et c'est vrai que je faisais partie des gens, ah, les jeunes, ils ne travaillent pas, ah, les jeunes, ils pompent sur Wikipédia, ah, les jeunes, ils vont ça. Mais en fait, c'est avec le recul que je vois que ces jeux-là, ils sont impliqués parce que ça les concerne forcément. Donc, on a parlé de l'exemple de l'antisémitisme. C'est un ami donc qui t'a fait connaître cette problématique. Mais en fait, il est généralisé, il est un peu partout. Et c'est là où on voit quand même nos élèves avec un autre regard. Ce n'est pas le regard d'évaluation, ce n'est pas la note, ce n'est pas une récompense, c'est plutôt ce qu'ils ont dans le cœur. Et c'est formidable parce que c'est une génération, on ne peut pas lui dire qu'ils font rien, qu'ils ne font que dormir, qu'ils regardent Internet, mais ils le regardent quand même avec une critique.
On disait ça de ma génération, donc ça va, ça me rassure.
Ce qui est très bien, oui, mais c'est vrai qu'Internet, ça fait quoi, une quinzaine d'années au maximum. Donc c'est très récent pour ces jeux-là, ils sont captés. Et l'anecdote qu'ils ont bien compris, il y en a qui l'ont compris, il y en a d'autres qui ne l'ont pas compris, que Internet, il faut la consommer en modération et avec un œil critique.
Ouais, c'est quand même plus de savoir.
Il faut éviter l'intox. Parce qu'ils le voient quand même maintenant, et la plupart d'entre eux, ils essaient de chercher et de comparer. Et ça, c'est instructif. Parce que quelqu'un qui a une personnalité, il arrive à critiquer, c'est ce qu'on veut. Pour les jeunes, qu'ils arrivent à critiquer, qu'ils arrivent à avoir une identité. Donc l'objectif de l'AMI, justement, c'est faire envoyer un message, mais par le biais de droit. Comme tu l'as bien dit, Lucie, c'est le biais de droit qui manque dans notre société. Donc l'accès, on leur parle de droit, mais aussi leur devoir. Et parmi quand ils luttent contre quelque chose, c'est une anomalie qu'ils essaient de lever un peu l'embargo, qu'on va dire.
Là, c'est un enseignement général. Est-ce que c'est possible avec l'année prochaine, avec enseignement technique, avec le LEP ou avec...
Alors, on a déjà. Hein, on essaie depuis Noyon aussi. On veut toujours...
Donc, mais... c'est le lycée Calvin à Noyon, c'est la cité Calvin.
Ouais, ouais, mais aussi de Beauvel. On a toujours eu... Alors, c'est vrai que c'est minoritaire, mais on a toujours au moins une classe ou deux issues de filières techniques. Et c'était pareil, cette année, on avait des premières COM et GA, et aussi STMG.
C'est quoi COM et GA?
COM, c'est communication, GA, c'est gestion administrative, d'accord. Et STMG, service...
Sciences techniques, ouais, du management et de la gestion. Donc STMG, oui, on est en section technologique, donc adossé en fait au lycée général et technologique. Ouais. Et par contre, pour les autres, c'est le lycée professionnel.
D'accord.
Donc vraiment, là, c'était un projet qui était mené par les différents établissements de Mireille Grenet.
Oui. J'ai oublié aussi SSI. Hein.
Ah oui, mais... Oui.
Voilà, mais en filière technique. Mais voilà, on essaie d'avoir une diversité et de la seconde à la terminale, même si cette année, les trois premiers, c'était des secondes.
Comme donc quoi, vous pourrez les suivre l'année prochaine et puis l'année d'après.
Oui.
Est-ce que vous avez un dernier mot avant de rendre l'antenne? Est-ce que les jeunes ou les moins jeunes
Déjà, on voudrait remercier Madame Bernard et Madame Pontopidan aussi, parce qu'elle a été là pour nous soutenir.
Vous allez les faire pleurer, jour, là.
Et merci aussi à Lucie qui nous a accompagnés. Et on remercie notre classe parce qu'ils ont vraiment été. Enfin, on s'est tous entraînés en fait. Donc c'est beau une classe qui s'entraîne, je trouve.
Oui, vraiment un grand bravo à cette classe, la seconde 6, qui a vraiment joué le jeu. Et nous, c'était très agréable de venir les voir parce qu'on a senti vraiment la bienveillance et l'intérêt qu'il y avait au projet. Toute la classe a vraiment adhéré. C'est vrai que c'est quand même rare que la classe, dans son entièreté, adhère au projet. Et là, on a eu 2-3 classes comme ça où tous les élèves se sont impliqués à 200%, et c'était le cas de cette classe, donc on a apprécié aussi venir en classe les voir.
Bah, rendez-vous l'année prochaine alors, je dirais.
Voilà, à l'année prochaine, avec d'autres thématiques.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. Si vous avez loupé l'émission, si vous l'avez pris en cours de route, n'hésitez pas à la podcaster, www.graphite.net. Et on se quitte avec ce morceau de The You, c'est donc du Metal Mongol. Je pense qu'on est les seuls à diffuser ce genre de morceau. Et on vous souhaite une bonne après-midi, bon courage, et à demain matin pour la matinale.
Merci.
Geht rein zum